France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le mercredi 30 juin. Bonjour Laurence Thomas.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la fin des jauges dans les établissements accueillant du public. C'est l'étape finale du déconfinement et le soulagement, notamment pour les commerces et les cinémas. On voit ça Laurence, après les autres titres.
La canicule extrême au Canada, conséquence du changement climatique, et en France, ce rapport du Haut Conseil pour le climat. Nous allons devoir apprendre à vivre avec 1 à 2 degrés de plus. Le casse-tête du calendrier et de la présidentielle et des législatives au menu du Conseil des ministres ce mercredi. Permettre aux forces de l'ordre de tourner, elles aussi, leurs images, les caméras piétons arrivent dans les commissariats et les gendarmeries. Puis, du rire au cinéma aujourd'hui avec la sortie de président d'Anne Fontaine.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50,
Léa. Et oui, Nicolas, faut-il s'inquiéter du variant Delta? La quatrième vague arrive-t-elle en septembre? Quand en finira-t-on définitivement avec ce satané virus? Il est le visage et la voix de la science depuis le début de l'épidémie. Le président du conseil scientifique, le professeur Jean-François Delfrécy, sera avec nous à 7h50.
Et on se retrouve à 8h20, Léa, pour le grand entretien de la matinale autour du forum Génération Égalité de l'ONU à Paris jusqu'à vendredi. Trois invités, Elisabeth Moreno, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Anne-Cécile Melfer, la présidente de la Fondation des femmes, et Hillary Clinton. Vos questions, 01 45 24 7000.
France Inter.
Une vie presque normale, quatrième et dernière étape du calendrier de déconfinement fixé en avril dernier par Emmanuel Macron. Aujourd'hui, fini les jauges dans les établissements qui accueillent du public, les restaurants, les théâtres, les musées, les salles de sport, les piscines et bien sûr les commerces dont les soldes coïncident avec la levée de cette restriction sanitaire. Yann Gallic.
Dans son magasin de vêtements, Jérémy n'est plus obligé de respecter la jauge de 4 mètres carrés par personne. À partir d'aujourd'hui, il va pouvoir accueillir tous ses clients sans restriction.
Pour nous, c'est une bonne nouvelle, effectivement, puisqu'on espère avoir plus de monde dans les magasins et moins de gens qui doivent attendre ou qui ne peuvent pas rentrer à cause des restrictions. Donc nous, on travaille avec le flux, avec un nombre de clients assez important. Donc forcément, quand il y a une restriction sur le nombre de clients qui peuvent rentrer, l'impact est direct sur le chiffre. Là, ça va être un soulagement, je vous dis, mais je pense que voilà, il faut qu'à la rentrée, ça soit définitivement fini et qu'on tourne la page.
Fini la queue devant la boulangerie, la boucherie ou le marchand de chaussures. Pour les clients aussi, la fin des restrictions est appréciable.
On reprend plaisir à se balader, aller dans les magasins. Même si on continuera peut-être à faire attention avec 2-3 mesures comme le masque, etc. Mais je trouve ça sympa que ça revienne un petit peu à la normale. Ouais.
Un retour à la vie normale très attendu chez les plus jeunes comme Margot et Juliette, deux lycéennes de 16 ans.
C'est vrai que c'est plutôt agréable en fait. Ça devenait un petit peu pénible, mais bon, après on sait que c'était pour le bien, donc voilà. Mais c'est qu'on sait bien que ça arrive pendant pour les vacances en fait. On va profiter des magasins entre amis, du coup.
Vous allez faire les soldes ?
C'est sûr, on va le faire tous ensemble, c'est bien.
De leur côté, les commerçants espèrent profiter de ces soldes d'été pour écouler leur stock et surtout relancer leur activité.
Yann Gallic, les soldes d'été donc pour accompagner et accélérer cette reprise dans les magasins et la fête du cinéma jusqu'à dimanche pour booster les salles obscures. C'est un véritable soulagement pour Servane Fouillet, directrice des cinémas Gaumont-Pathé de Grand Quevilly, Rouen et Le Havre.
Ah oui, c'est un grand soulagement parce qu'effectivement, on va pouvoir enfin retravailler, on va dire, au plein. Donc ça, c'est génial et ça tombe juste le premier jour de la fête du cinéma. Donc pour nous, c'est une vraie fête. On avait cette problématique de jauge et puis on avait le couvre-feu. Et vous n'êtes pas sans savoir que le cinéma, bah, les gens aiment bien y aller en soirée. Donc c'est vrai qu'au début, on s'est remis un petit peu en jambes, mais c'était très bien aussi puisque ça permet au film de se placer. Au mieux pour l'été, et là ça y est, on voit que on a une proposition cinématographique estivale qui va être absolument d'enfer.
Servane Fouillet, directrice des cinémas Gaumont-Pathé, en Seine-Maritime, au micro de Christine Wurtz de France Bleu Normandie. Et il n'y a plus qu'à espérer que le variant Delta ne vienne pas jouer les rabat-joie. Pour l'heure, seulement 29 malades sont entrés en réanimation ces dernières 24 heures. Ils étaient 47 encore il y a une semaine. Et on compte 134 nouvelles hospitalisations contre 181 il y a une semaine, selon Santé publique France. Rappelons que 50% de la population française a reçu à ce jour au moins une dose de vaccin.
Il est 7h05, Laurence, la planète en surchauffe, ça se passe au Canada, dans la région de Vancouver.
Du jamais vu, canicule extrême, un pic de 49 degrés, 21 degrés au-dessus des normales de saison, conséquence 140 morts en en quatre jours, cette vague de chaleur s'explique par un phénomène appelé dôme de chaleur de haute pression qui emprisonne l'air chaud. On en reparle dans le journal de 8 heures. Et ce climat qui change, eh bien, il va falloir s'y faire et vite. C'est en substance le contenu du dernier rapport du Haut Conseil pour le climat, rapport rendu au Premier ministre très récemment. Les émissions de gaz à effet de serre diminuent en France, même si c'est toujours insuffisant. Et selon ce rapport, la France doit dès maintenant s'adapter pour vivre avec 1 ou 2 degrés de plus. Célia Guigré.
2 Français sur 3 sont déjà fortement exposés au risque climatique en fonction de l'endroit où ils habitent, près de la mer, à la montagne, en fonction du métier qu'ils exercent. Les agriculteurs notamment ont perdu des récoltes au printemps à cause du gel tardif après un hiver doux. Les vendanges sont précoces, certains professionnels devront s'adapter au manque de neige en montagne. Les entreprises devront faire face à des vagues de chaleur plus longues dans les villes. Pour Magali Reghezza, géographe et membre du Haut Conseil pour le climat, tout cela doit être coordonné et anticiper, sinon les dégâts seront trop importants.
On va changer les dates de récolte, et puis on va changer les semences, on va planter de nouvelles espèces. Derrière, c'est toute la formation des agriculteurs qui change. C'est pas juste inventer une nouvelle espèce ou inventer un nouveau système d'arrosage. Peut-être qu'il va falloir, à un moment donné, faire des transferts d'eau d'un territoire à un autre. On sait aussi, par exemple, que le recul du trait de côte va faire que certaines habitations, certaines activités vont devoir être délocalisées. Ça veut dire qu'on va avoir des mouvements de population, d'entreprises, d'activités vers d'autres territoires, vers d'autres régions. Et à un moment, il faut un arbitrage. Il faut un chef d'orchestre.
Et en effet, d'après ces scientifiques, il faudra sans doute mettre en place un système de solidarité financière entre les régions pour aider davantage les zones rurales, les littoraux et les outre-mer, plus impactés par le réchauffement, le manque d'eau ou la montée du niveau des mers.
Célia Kiré, au menu du Conseil des ministres ce matin, le calendrier électoral. Emmanuel Macron va acter les dates de la prochaine élection présidentielle. Elle se tiendra les 10 et 24 avril prochains, des dates que Marine Le Pen et Xavier Bertrand notamment contestent. Bonjour Maxence Lambrec.
Bonjour.
Comment le gouvernement, alors Maxence, s'est-il prononcé sur ces dates, est-ce qu'il avait finalement le choix ?
Pas de bonne solution, à vrai dire, puisque c'est la Constitution qui encadre ces dates. Le premier tour doit avoir lieu entre le 8 et le 23 avril, une fenêtre de 2 semaines, 20 jours au moins avant la fin du mandat, article 7 alinéa 3. Et l'élection doit se tenir un dimanche et le second tour 14 jours plus tard. Le gouvernement a donc le choix entre 2 mauvaises options, 10 et 24 avril, les vacances scolaires du printemps, toutes les zones à l'arrêt le week-end du second tour, ou bien 17 avril, 1er mai, le dimanche de Pâques, le premier tour, les vacances scolaires toujours, et le second tour, le jour de la fête du travail, quasiment pas de transport en commun, des défilés syndicaux, c'est la pire option. Tant pis donc pour les vacances, ce sera les 10 et 24 avril, cela raccourcit le mandat présidentiel, ça ne nous arrange pas, confie un ministre, car le Parlement s'arrêtera plus tôt et la période de réserve démarrera dès le 11 mars.
Et ce nouveau calendrier va aussi bousculer finalement les élections législatives.
Alors là aussi, casse-tête des dates depuis 2002 et l'inversion du calendrier électoral par Jacques Chirac, l'élection des députés intervient 5 semaines après la présidentielle, pour vite bénéficier de la même dynamique. Cela tomberait donc les 29 mai et 5 juin, le pont de l'Ascension et le pont de la Pentecôte, coup double. Alors le plus simple sera sans doute d'aller au terme du mandat des députés, qu'importe le long temps mort, 3 mois sans Parlement. Les législatives auraient lieu les 12 et 19 juin. Le gouvernement a encore un peu de temps pour trancher.
Maxence Lambrec.
Il est 7h08, les caméras piétons chez les policiers et gendarmes. C'était une promesse formulée par Emmanuel Macron, Laurence, le 14 juillet dernier. Leur livraison a démarré.
Objectif affiché par le ministère de l'Intérieur, permettre aux forces de l'ordre d'avoir elles aussi des images de leurs interventions face aux nombreuses vidéos tournées avec les téléphones portables. Ariane Grissel.
En tout, 30 000 de ces caméras piétons doivent être livrées d'ici la fin de l'année. L'objectif est qu'au moins un fonctionnaire soit équipé dans chaque patrouille. L'appareil se fixe sur le torse. Il n'enregistre pas en continu. C'est aux policiers ou gendarmes de l'allumer s'il estime que la situation l'exige. Un équipement salué par les syndicats de policiers qui y voient la possibilité d'apporter en quelque sorte un contre-champ aux images du grand public. Thierry Clerc est secrétaire général adjoint de l'UNSA Police.
Aujourd'hui, on a, je dirais, une guerre des images souvent, ce qui se fait toujours au détriment d'ailleurs des policiers. Au moins, ces éléments qui seront filmés par les policiers, ce seront des éléments en continu, qui seront des éléments réels entre le début d'une action et la fin d'une action. Ça sera aussi pour le magistrat d'ailleurs, les magistrats qui éventuellement seront en charge des dossiers, de pouvoir véritablement contextualiser les choses et porter une appréciation sur ce qui a été fait par le son et par l'image.
L'utilisation des caméras piétons par les forces de l'ordre n'est pas une nouveauté. 10 000 étaient déjà en service, mais les appareils étaient difficiles à fixer sur l'uniforme et tombaient surtout rapidement à court de batterie. Les nouveaux modèles peuvent enregistrer jusqu'à 12 heures de vidéos stockées pendant maximum 6 mois. La future loi sécurité globale prévoit que les images puissent également être visionnées en direct par des fonctionnaires habilités. À l'origine, le texte donnait aussi la possibilité de les rendre publiques en cas de polémique. Mais ce projet a été retoqué par les sénateurs.
Ariane Grissel, pas d'accès aux services médicaux, impossible de se faire embaucher, risque d'être expulsé du pays. Voilà ce qui pourrait arriver aux Européens qui vivent au Royaume-Uni s'ils n'ont pas fait la demande de résident permanent avant ce soir. Un peu plus de 4 millions de personnes sont concernées à Londres, Richard Place.
Il ne trouvait plus les papiers nécessaires, il ne comprenait pas le fonctionnement de l'appli. Francesco, la cinquantaine, a fini par faire appel à une association. Cet Italien vit et travaille à Londres. Le Brexit, il sait bien que ça existe, mais jusqu'ici, c'était virtuel pour lui. Alors, la demande de statut de résident, il s'y prend in extremis.
Je vis à Londres depuis 18 ans. Je ne comprends pas pourquoi on me réclame ces documents.
Guillaume Descôtes est venu en Angleterre pour les études. Il y a rencontré l'amour. C'est aussi là qu'il développe sa société Vialma, une appli spécialisée dans le jazz et la musique classique.
Ah bah ça c'est une playlist géniale. Nadia Boulanger, elle a formé Leonard Bernstein, elle a formé Miles Davis, elle a formé tout le monde.
Sur ses 24 salariés, 7 sont au Royaume-Uni, l'entreprise se développe, mais les recrutements à Londres se compliquent, le choix se réduit à cause des nouvelles formalités.
Oui, là c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Déjà Londres c'est une capitale pour les startups technologiques, donc il y a une très forte concurrence. On est en train de recruter, Londres a perdu de son pouvoir d'attractivité. Ouais.
Une immigration mieux maîtrisée, notamment pour donner plus de travail aux Britanniques, c'est le calcul de Boris Johnson pour le Royaume-Uni post-Brexit. Londres, Richard Place, France Inter.
7h11, pour terminer, Laurence, la plus drôle des campagnes présidentielles est au cinéma.
Deux anciens présidents torturés par l'ennui et le manque de leurs fonctions. L'un, Nicolas Sarkozy, joué par Jean Dujardin, qui se morfond dans son appartement du 16e arrondissement de Paris. L'autre, François Hollande, incarné par Grégory Gadebois, lui est parti faire du miel en Corrèze. Jusqu'à ce que Nicolas Sarkozy tombe sur une couverture de magazine qui prévoit la victoire de Marine Le Pen en 2022. Il décide alors de partir en Corrèze pour tenter de raviver la flamme chez François Hollande et s'en faire un allié. Président d'Anne Fontaine, c'est aujourd'hui au cinéma. Une fiction très drôle, piquante. Un message on ne peut plus clair. Corinne Pellissier barre la route à la candidate du Rassemblement National.
Si vous êtes, monsieur le président à droite, tournez-vous un tout petit peu vers la gauche.
Qui pour battre Marine Le Pen en 2022? Le voilà le grand projet du film. Associé deux anciens présidents que tout oppose, Nicolas Sarkozy, François Hollande, pour barrer la route au Rassemblement National.
On commence à créer un parti. Je crois la France pour toujours, par exemple.
Bonjour à tous.
Une idée saugrenue et un duo de choc pour un film impertinent, mais pas trop, qui joue souvent la carte du décalage. Caractère inversé, personnage un peu loser, des dialogues bien sentis, de la mauvaise foi, beaucoup d'humour, et des comédiens, Grégory Gadebois, Jean Dujardin, pas toujours ressemblants, mais jubilatoires.
Nous avons déjà consulté nos amis des Rap et Clol. Des Rap et Clol. J'arrive jamais avec leur nom à la con.
Europe.
Ce n'est pas la première fois que le duo inspire. En début d'année déjà, les dessinateurs Joan Sfar et Mathieu Sapin les avaient mariés dans une aventure BD rocambolesque autour du complot reptilien. Dans son film, Anne Fontaine veut surtout interpeller la classe politique et les électeurs avec humour, sans militantisme, mais le message est clair. Halte aux divisions qui lassent et nourrissent bien souvent l'abstention.
Et c'est la fête du cinéma. On en profite pour voir président d'Anne Fontaine.
Merci Laurence Thomas. Le zoom dans 3 minutes quand des particuliers piègent des pédocriminels.